Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Metroid 2 Return of Samus, sorti en 1992 sur Game Boy et développé par Nintendo. Il sera comparé aux autres jeux Metroid et il sera évoqué la façon dont ces jeux présentent et organisent les objectifs finaux de leurs aventures respectives.
Première partie, introduction et problématique.
De tous les épisodes de la saga Metroid, et nonobstant Other M qui n'a jamais réussi à me convaincre, Metroid 2 est sans doute celui que je préfère le moins de toute la saga. Les ingrédients sont là pourtant. La solitude, l'ambiance oppressante, le labyrinthisme. Je n'ai jamais toutefois été convaincu par la progression toute particulière du jeu. Le premier Metroid, sur NES, nous mettait pour la première fois aux commandes de Samus Aran dans sa quête, sur la planète Zebes, contre les pirates de l'espace. Dans ce genre de jeu nouveau, la progression vers l'ultime ère de jeu, Turian, était conditionnée non seulement par la mort des deux généraux Ridley et Kred, mais également par l'obtention de plusieurs capacités dont nous avons parlé dans notre émission précédente, afin d'ouvrir des portes spécifiques et d'atteindre des endroits autrement inaccessibles. Dans Metroid 2, un autre paramètre est à prendre en considération. Dans ce jeu, la progression dans les profondeurs de la planète SR388 est conditionnée non seulement par l'obtention de plusieurs capacités, comme la balle araignée, mais également par la mort de plusieurs Metroïdes, dont l'élimination parfaite est l'objectif final du jeu. Pour progresser, le joueur doit cependant en détruire un certain nombre dans des zones délimitées. Et, une fois tout ceci éliminé, la lave qui tapisse certains couloirs des souterrains se retire pour permettre ainsi d'explorer les autres zones. J'ai toujours trouvé cela étrange me concernant. Quand bien même insisterait-on bien là, à nouveau pour évoquer notre émission précédente sur la saga Wario Land, à un équilibre entre un signe narratif, puisque l'élimination parfaite des Metroïdes est l'objectif narré de Samus, et un signe de gameplay, dans la mesure où c'est ainsi que le joueur peut effectivement progresser, il m'a toujours semblé que cela allait à l'encontre de la philosophie de la saga telle qu'établie dans le premier épisode et telle qu'elle le sera encore dans les futurs jeux. Dans tous ces autres, lorsque le joueur se retrouve bloqué, ce qui arrive effectivement souvent compte tenu du tarabiscoté de la progression, il ne saura pas réellement où chercher. Chaque capacité obtenue ouvre des chemins dans toutes les directions, un seul lui permettant exclusivement de progresser. Dans Metroid 2, en revanche, la progression est davantage séquencée, ce qui est certes à propos pour un jeu portable, et sans nul doute les développeurs eurent cela en tête pour la construction du titre, mais sémiotiquement, et pour l'interprétation que l'on fait de ce signe, les choses ne sont pas sans conséquences. J'avais abordé la question du score dans Megaman jadis, et j'avais conclu que ce dernier était une instruction de continuité sémiotique, permettant au joueur de créer du sens et de la narration dans sa progression. Metroid, cependant, se garde bien d'avoir ce genre d'indication, ne serait-ce que parce qu'il est un jeu infiniment narratif dans sa structure non linéaire. Et l'absence d'indications chiffrées, de score le cas échéant, permet au joueur de ne pas établir de pronostic et d'évaluer, plus ou moins justement, ce qui lui reste effectivement à parcourir. Cela participe à la sensation d'étouffement que nous pouvons ressentir. En l'absence d'objectifs intermédiaires clairement établis, la quête de Samus, au même titre que les souterrains de Zébès, apparaît sans borne. Arrive alors Metroid 2 et ce décompte de Metroid. Quand bien même ne serait-il indiqué combien il peut en rester par zone uniquement en appuyant sur le bouton pause, et non pas dans le jeu en tant que tel, le simple fait d'annoncer un but final donne une lueur d'espoir à notre quête. Il y a donc une tension entre le signe narratif et le gameplay, entre le chiffre et l'exploration inhérente à la saga. Nous poserons alors la problématique de l'émission comme suit. Pourquoi Metroid 2 choisit-il de cadencer numériquement la progression de son aventure, au contraire des autres épisodes?
Deuxième partie, le temps de l'exploration.
Pour introduire notre propos, faisons un petit détour par la scène speedrun, soit chez les joueurs qui s'amusent à terminer leur jeu de la façon la plus rapide qui soit, ou en se fixant différents objectifs semble-t-il plus fous les uns que les autres, comme le fait de ne récolter aucun bonus, de ne jamais appuyer sur un certain bouton, de faire le jeu à l'envers, et ainsi de suite. La saga Metroid est une des rares dont les différentes catégories ne ressemblent à aucune autre. Outre les fameux Any% et 100% qui renvoient au seuil de complétion exigé pour le jeu, les speedrunners se distinguent régulièrement ici temps réel et temps de jeu. Effectivement, dans une partie de Metroid, et notamment à compter de Super Metroid, sans doute le plus creusé par les joueurs, certains moments d'une partie ne sont pas décomptés dans l'horloge interne du jeu, notamment ce qui est de l'ordre des transitions entre les salles, la récupération des items et le jingle les accompagnant, et ainsi de suite. Aussi, en fonction de l'objectif affiché, les routes prises seront notablement différentes, par exemple pour limiter le nombre de salles traversées. Mais du point de vue du jeu lui-même, cela n'est pas sans conséquence sur sa réception auprès du joueur. Si tous les jeux ne chronomètrent point les parties du joueur, ou n'affichent cette donnée qu'à la toute fin de l'aventure ou dans un menu caché, la chose s'est systématisé avec l'apparition des piles de sauvegarde. Celles-ci enregistrent effectivement le moment exact où la sauvegarde est faite. Et par addition, il devient facile pour le jeu d'afficher une valeur qui correspond bien au temps passé dans un fichier de sauvegarde en particulier. L'indication est souvent superfétatoire, tout au plus est-elle un bon indicateur, hors diégèse, de notre investissement dans tel ou tel titre, souvent d'ailleurs ce sont les jeux de rôle qui nous donnent cette indication. Mais d'autres jeux conditionnent volontiers certains de leurs événements en fonction de ce paramètre. Metroid est de cela, en fonction du pourcentage de complétion certes, mais également du temps mis pour arriver jusqu'au et pour abattre le dernier boss. Une scénette se dévoile au joueur. Jadis, et aux grandes dames du féministe que je suis, Samus se dévoilait de plus en plus dévêtue. Aujourd'hui, et heureusement, ce sont des images rigolotes ou intrigantes, pouvant nous en dévoiler légèrement plus sur l'univers de la série. Cela implique surtout que le joueur est encouragé à terminer le jeu le plus rapidement possible. Cela ne saurait cependant se faire lors d'une première partie, à cause des labyrinthes que sont les mondes à parcourir. mais le retour ultérieur permet d'améliorer son temps, jusqu'à ce qu'un plafond de verre, ou que la lassitude, ne vienne arrêter notre partie. L'on remarquera que dans ces parties ultérieures, tout ce qui pouvait apparaître comme narratif est comme vidé de sa substance. Tout comme dans n'importe quelle entreprise de speedrun ou de superplay, les signes narratifs sont parfaitement ignorés au profit de purs signes de gameplay. Exemple s'il en est, un speedrunner cherchera toujours à couper ou à passer les cutscenes, si besoin, au moyen d'un bug ou d'un glitch. Il y a donc, d'instinct, une opposition franche entre l'ambiance, l'univers et, peut-on dire, l'intérêt de la saga, et la course au temps, sinon du score, qu'elle implique cependant. Comment ces deux éléments peuvent-ils donc s'articuler l'un avec l'autre? La réponse, à ce que je crois et comme je la conçois, peut décevoir. Ils ne s'articulent tout simplement pas entre eux. Il existe dans des sphères fondamentalement différentes et ne saurait entretenir une quelconque relation. Ils se contredisent parfaitement. Il est des jeux où la course à la vitesse ou au score et le gameplay lui-même ne sont pas antagonistes dans la mesure où ils se complètent ou bien l'un n'est le but de l'autre. Les jeux de course, les shoot'em up, coordonnent leurs efforts dans cette optique. Dans le cas de Metroid, les choses ne sauraient être ainsi cependant. Il convient de reconnaître que tout ce qui est de l'ordre du chiffré ne saurait s'accorder avec, dirons-nous, la philosophie de la saga. C'est une question qui renvoie à la séparation entre le discret et le continu. Le chiffre, le temps, le score sont des éléments discrets, dénombrables, qui possèdent des bornes clairement établies ci et là. L'exploration, la découverte, s'étend dans toutes les directions et ne saurait s'arrêter, si ce n'est qu'arbitrairement et non par une borne naturelle, mais par une décision extérieure à son existence. Explorer est un acte sans fin, sans discontinuité. Et n'étaient les chiffres, et notamment le pourcentage de complétion, tout un chacun continuerait à chercher de nouveaux environnements et de nouveaux passages secrets, sans s'arrêter où ou quand que ce soit. On peut considérer, et ce sera là une première étape dans notre réflexion, que dans la saga Metroid, tout ce qui est de l'ordre du chiffre tire du côté de la compétition, du rodage des mécaniques de jeu. C'est l'envers du décor. Et ce que le joueur ne voit pas, ou ne discerne pas comme tel, l'exploration et le continu, composent au contraire le cœur de la saga, et ce que l'on doit considérer comme son étymon spirituel.
Troisième partie, les fins des décomptes.
Il y a cependant un instant dans les sagas Metroid, où l'on peut lire un décompte numérique, et où la chose est pourtant entièrement tournée vers le réseau de signes narratifs, et non pas vers les mécanismes cachés du jeu. Ces séquences finales, ou initiales parfois, dans le cas notamment de Super Metroid et de Metroid Prime, dans lesquelles Samus Aran doit s'échapper d'un complexe, d'une planète, ainsi de suite, avant sa destruction totale. L'on pourrait considérer ces séquences comme des concessions faites au cinéma d'action. Elles ne peuvent, en tout cas, que faire penser au dernier moment des films Alien et Aliens, qui sont, on le saura, des sources d'inspiration évidentes pour Metroid. Mais au-delà de cette intertextualité, ou de cette intersémioticité, que nous révèlent réellement ces séquences de la philosophie Metroid, faite, comme nous l'avons montré, de continu et non pas de discret. Il nous semble que ces séquences nous invitent à nuancer légèrement notre modèle. Ce que Metroid n'aime pas, en tant que saga. Ce n'est pas seulement le discret en tant que tel, mais le discret illimité. Le décompte, qui s'achève finalement à zéro, sans même parler des containers d'énergie, missiles et ainsi de suite qui sont en nombre limité dans chaque épisode, fait bien partie de la saga des Metroid. Pour ainsi dire, l'exploration et le labyrinthisme qui lui sont propres se conjuguent ici ludiquement avec le besoin de s'enfuir rapidement de ce même labyrinthe. Cela suppose une connaissance aiguë des lieux, quand bien même cela se ferait-il par l'intermédiaire d'un nouveau chemin. On ne fait donc que parfaire, par sa connaissance des choses, les mécaniques et la construction de la zone que l'on a traversée auparavant. Appliquons alors cette logique à Metroid 2 et voyons de quelle façon il peut s'articuler avec la série entière, y compris vis-à-vis du premier épisode qui a initié les éléments que nous venons d'évoquer. Dans cet épisode, la progression dans le jeu, autrement dit l'exploration de la planète SR388, est conditionnée par un décompte, et notamment par le nombre de métroïdes restants dans une zone en particulier. Nous avons ici bien la preuve que le décompte limité et descendant s'articule avec l'exploration du jeu. Mais tandis que dans le cadre de Metroid, premier du nom, ce décompte descendant scandait la fin de l'aventure, dans Metroid 2, il fait office de bilan d'étapes intermédiaires. Cela, dès lors, n'est pas sans influencer notre réception de l'aventure. Jadis, le décompte, par sa relation intertextuelle avec les films d'action, annonçait effectivement la fin du jeu. Ici, il est comme perpétuellement relancé. Dans le jeu original, aucune borne ne vient annoncer le nombre de métroïdes, de boss ou d'ennemis qu'il faut effectivement tuer pour progresser dans l'aventure. Si l'on se doute, tant narrativement que ludiquement, qu'il faut que ce nombre atteigne zéro pour finir la partie, rien ne vient nous indiquer le nombre qu'il faut effectivement tuer pour progresser. C'est de cette manière, à ce qu'il me semble, que le jeu parvient à concilier le discret et le continu, l'exploration et le chiffre. Il exhibe, pour ainsi dire, sa progression pour mieux la dévoiler. Cette caractéristique n'est pas sans conséquence sur les autres réseaux de signes que l'on peut trouver dans le jeu. Nous avons déjà évoqué la progression du joueur, mais l'on peut évoquer les transitions d'écran en écran qui à présent se dispense de portes pour scander le passage d'une zone à l'autre. Cela peut se faire à présent de façon continue, ce qui vient contrer le discret et le séquencé du jeu original à ce niveau. Nous pouvons aussi citer l'apparition de la balle araignée, qui permet aux zones de jeu de prendre des formes complexes, plus complexes que les couloirs et les puits du premier épisode, pour mieux épouser la continuité de souterrains divers. Enfin, et du point de vue narratif, le cycle d'évolution des métroïdes renvoie à un ensemble mouvant et continu, scandant certes des étapes marquées, mais révélant surtout un organisme perpétuellement en mouvement et jamais ne s'arrêtant dans sa progression, comme les théories darwiniennes ont su le faire au regard du créationnisme religieux qui établissait des frontières rigoureuses entre les espèces naturelles. Pour ainsi dire, c'est une autre forme d'équilibre à laquelle nous assistons dans ce titre en particulier. Tandis que le décompte entrait en contradiction avec la philosophie du premier jeu, Metroid 2 parvient à le réinvestir et à l'étendre pour en influencer les autres signes autour de lui. Comme nous le disions dès le premier épisode de notre émission, un jeu vidéo est un ensemble équilibré, à la façon d'un atome qui serait stable électriquement. Sans pour autant prendre l'inverse du premier épisode qui installait nombre de caractéristiques, Metroid 2, malgré sa couleur atypique, semble davantage comme une exploration de ses principes fondateurs, y compris du point de vue profond, qu'une remise à jour de ses extensions.
Quatrième partie, les nouvelles narrations.
Reste cependant un élément sur lequel nous devons revenir. La fin du jeu et le jeu, précisément, avec le décompte des Metroïdes restants. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, la fin de Metroid 2 réserve une surprise certaine. Après avoir exploré les fins fonds de SR388, Samus assiste à l'une des ultimes évolutions des Metroïdes, la forme Omega. Une fois ceci tué, elle avance vers un laboratoire de génétique où brusquement, et ce alors que le décompte des créatures ne faisait que descendre, le nombre d'individus remonte d'une dizaine d'unités. La quête n'est donc pas tout à fait terminée. Il est cependant quelque chose d'intéressant à constater avec cette brusque montée au regard de notre problématique. Généralement, et nonobstant l'indication de temps, remarquons qu'un chiffre augmentant est généralement une excellente chose dans les Metroïdes. Que ce soit notre quantité d'énergie, le nombre de missiles ou de super-bombes en notre possession, et ainsi de suite, rien n'est plus gratifiant dans ce jeu qu'une augmentation. Pourtant, cette augmentation du nombre de Metroïdes à détruire ne peut être interprétée comme une excellente chose tant du point de vue de l'histoire que du point de vue du jeu, surtout en considérant la difficulté d'un combat contre les formes Oméga des Metroïdes. Certes, ce seront finalement des larves que nous tuerons, mais lors de l'augmentation du décompte, nous l'ignorons, et nous pouvons volontiers songer que c'est la dernière forme rencontrée de l'évolution que nous affronterons effectivement. Nous avons une fois encore un va-et-vient entre un élément narratif et un élément de gameplay qui, cette fois-ci, prend le contre-pied de ce que nous connaissons de la série et font réseau. De la même façon que les contes à rebours à la fin du premier épisode témoignaient d'un changement marqué de rythme, l'augmentation du nombre de larves à détruire ici implique une plus grande exploration et contredit, là aussi, ce que l'on attendait de cet épisode. Le contraire d'un contraire, par définition, est un semblable. Et cette zone de ressembler effectivement aux Touriennes du premier jeu. Pour donner un crédit supplémentaire à notre théorie, remarquons que la mort de la reine Metroïde qui prend, peut-on dire, la place de Mother Brain, ne déclenche ici aucun compte à rebours, aucune explosion ultime. Nous avons au contraire une remontée tranquille vers la surface de la planète, un petit Metroid nous suivant comme un enfant. Finalement, c'est la narration qui prendra le dessus à la fin de notre partie, et c'était nécessaire pour construire, cette fois-ci, l'univers du jeu. Le concept du décompte, nous l'avions dit dans notre émission concernant le score dans Mega Man, et nous l'avions rappelé plus tôt, est un indice narratif ou, si l'on préfère, de continuité sémiotique. De la même façon que le nombre à l'en-tête d'un chapitre d'un livre ou qu'un simple numéro de page, le décompte vient scander notre progression dans une œuvre quelconque. Le décompte est décroissant dans Metroid 2 et annonce la fin de la partie. Il remonte à la fin de celle-ci pour annoncer un rebondissement dans la narration, mais se bloquera finalement au chiffre 1, avec la larve derrière qui nous suivra jusqu'au générique. La mission de Samus étant un échec, elle ne peut qu'appeler une suite. Metroid 2 n'a pas réellement de fin actée, une complétion véritable, aucun mystère supplémentaire. Ce sera dans Metroid 3 ou Super Metroid que les choses seront finalement résolues, de la façon que l'on sait. Est-ce à dire alors que Metroid 2 doit se saisir, malgré son principe fondateur qui en est la trace, comme un épisode de transition, dont la valeur réside moins en lui-même que par sa conjonction avec les autres épisodes? Nous remarquerons qu'à la série des Prime s'intercale, au dire des développeurs, entre cet épisode et le premier, ce qui témoigne de son importance diégétique davantage en termes de jalons intermédiaires, la transition relançant le propos, qu'en termes de borne finale, qui l'arrêterait effectivement. Cela ne serait pas surprenant, à dire vrai. Non seulement les seconds épisodes des grandes sagas de Nintendo ont toujours été propices aux expérimentations, que l'on songe à Zelda 2 au regard de The Legend of Zelda, ou à Super Mario Bros. 2 ou USA vis-à-vis de Super Mario Bros. Mais les épisodes sur console portable, du moins sur Game Boy, se sont toujours présentés comme en marge de ou à côté de leur série principale sur console de salon. Mario n'affronte pas Bowser dans les Super Mario Land, Link se retrouve perdu dans Coco Lint dans Link's Awakening, et notre sixième épisode a montré de quelle façon l'intertextualité dans cet épisode de Zelda, en particulier, lui permettait d'exhiber plus qu'ailleurs l'artificiel de ses mécanismes. D'un autre côté cependant, dans cette régularité, la série des Metroid présente un certain atypisme dans la mesure où, du point de vue diégétique cette fois-ci, les épisodes se suivent malgré les supports. Et tout comme Super Metroid nommé Metroid 3, Metroid Fusion est initialement annoncé sur Game Boy Advance sous le titre de Metroid 4. Pour ainsi dire, autant pourrait-on considérer que, dans le cas de Mario et de Zelda, les mécanismes sont en continuité et l'histoire en rupture, autant dans Metroid 2, nous pouvons observer le contraire. L'histoire est en continuité et les mécanismes en rupture. Cela crée cependant et surtout comme une impression de continu bienvenue dans un univers qui s'apparente comme brisé. En quelque sorte, comme le décompte des Metroid crée une discontinuité inattendue, il faut la corriger ou la rééquilibrer plutôt avec une continuité narrative. Metroid 2 a réussi, sémiotiquement et du point de vue de l'interprétation, tout du moins, ce que Metroid premier du nom n'avait su faire. Concilier narration et gameplay, à chaque fois en prenant un peu de ce qui faisait le sel de l'un ou de l'autre, pour réinjecter l'ensemble dans sa construction.
Cinquième partie, l'unique et le nombreux.
Nous terminerons cette émission par une réflexion qui engage la série Metroid dans son ensemble et la façon dont les développeurs, Nintendo en premier lieu, l'ont fait évoluer depuis sa création. Tandis que Metroid nous mettait dans une situation du seul contre tous, les jeux ultérieurs ont su par petites touches, modifier ce canevas initial pour augmenter l'univers. Dans le deuxième épisode, une larve Metroid nous accompagne jusqu'au vaisseau. Dans le troisième, nous voyons des scientifiques dans l'introduction, des cadavres dans la station Cérès. Dans le quatrième, un super ordinateur suit et ordonne nos futurs gestes, et les Metroid Prime ont progressivement augmenté le nombre d'interlocuteurs. À ce jour, j'écris cet épisode en septembre 2016, le dernier épisode disponible de la saga est Federation Forces, qui se dispense même parfaitement de Samus Aran au profit d'une flopée d'autres personnages, comme si Nintendo voulait prouver que sa série pouvait se passer de son héroïne pour exister. Mais tandis que les exégètes se disputent pour savoir où et quand a commencé cette tendance particulière, je pense que l'on peut légitimement croire que la chose était présente, dès le deuxième épisode, de façon implicite. La direction que prend la saga Metroid aujourd'hui ne devrait en réalité surprendre quiconque. La chose était attendue. Tout au plus peut-on se plaindre que l'évolution ait été aussi rapide. L'on comprendra que, parallèlement à ce mouvement du continu vers le discret, puis vers le continu qu'a cristallisé le parcours de Metroid 2, cet épisode fait lire également une évolution de l'unique vers le nombreux. Il y avait dans Metroid, tout comme il y aura, du moins de prime abord, dans Super Metroid et plus loin encore dans Metroid Fusion, un et un seul objectif. Mother Brain, le bébé Metroid, SAX. Mais au fur et à mesure de la partie, l'unique laisse sa place au nombreux. Mother Brain, dans Turian, est protégé par de multiples larves Metroid. Le bébé Metroid, dans Super Metroid, a été cloné de même. Un SAX, clone de Samus, devient plusieurs, cela étant clairement dit au cours de notre partie de Metroid Fusion, et ce quand bien même, sans doute pour ne pas influencer la difficulté du jeu, nous n'en affronterions qu'un et un seul. Metroid 2, en tant qu'épisode de transition, a initié cette multiplication. Les Metroids sont comptés, décomptés, éliminés et finalement multipliés. Ce qui s'annonçait comme un parcours aussi découpé que le premier épisode fait montre pourtant d'une continuité, tant dans ses mécaniques de gameplay que dans sa narration, au sens profond du terme. Il y a comme une prise d'élan. Et quand bien même serions-nous toujours seuls dans notre quête, et que Samus ne serait aidée de quiconque, il y a déjà là en germe tout ce que Metroid sera par la suite. L'unique est devenu nombreux, la menace s'étend. Cet épisode est richement narré, du moins dans ce manuel de prime abord. On donne à Samus son vaisseau, on termine l'aventure par un cliffhanger. Contrairement à ce que nous étions tentés de croire en voyant l'évolution de la série, tout était déjà là. Quelque part, je dirais aussi que c'est là le sort de toute série qui tente à s'éterniser et à multiplier ses épisodes encore et encore. Il n'y a pas seulement volonté, de la part des développeurs, d'ajouter des capacités pour éviter la redite, mais aussi d'améliorer les réseaux de signes existants en les étendant du point de vue narratif. Nintendo, que l'on présente pourtant comme le parangon des jeux prétextes, ne peut faire autrement au fur et à mesure des itérations de ces fameuses sagas, avec souvent l'incompréhension que l'on sait. C'est lorsque, cependant, les réseaux narratifs prennent trop d'importance que le besoin de revenir en arrière se fait le plus sentir. Après Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy retoque l'histoire au calende grec. Après Skyward Sword, Breath of the Wild est un nouveau souffle où, à ce que l'on sait au moment où je dis cela, la narration est réduite à sa portion congrue. Je reviens alors à ce que je disais en introduction. Je n'ai pas une grande amitié pour Metroid 2 Return of Samus. Je préfère encore le discret au continu, l'unique au multiple. Mais comprendre cet épisode permet, comme de juste, de mieux apprécier ce que les autres font plus volontiers.
Il faut quand même faire un peu gaffe. Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Ah, faudrait faire une pub pour Getting to Know You, mais là j'ai la flemme.
Ça peut être ça notre pub, non?
Ouais.
Getting to Know You sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.